BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h30, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts, on est ensemble pour une heure de débat et de controverses, avec ce matin quatre questions pour prendre le pouls de l'économie française. Le budget d'abord, comment tenir la trajectoire? La croissance vient d'être révisée à 0,7% par Bercy, qui annonce 3 milliards d'euros de gel supplémentaire, mais prévient déjà, atteindre les 5% de déficit sera difficile cette année. Alors où couper? Mais faut-il une règle d'or pour empêcher la France de décrocher encore? Ce sera l'un des débats de la présidentielle, on en parlera dès ce matin. Nous parlerons aussi du travail des jeunes. La France travaille moins que ses voisins. Et chez les 15-24 ans, le problème vient surtout des NEETs, ces jeunes sans emploi, sans formation, ni diplôme, et du faible cumul emploi-études. Alors faut-il réconcilier plutôt l'école, l'université et l'entreprise? Ce sera le deuxième débat ce matin. Troisième sujet, le Made in France. Le déficit commercial s'est encore creusé au mois de juin, près de 7 milliards d'euros, alors que nos produits restent bien perçus à l'étranger. Alors qualité, innovation, notoriété, tout va bien, sauf peut-être le prix. Le Made in France est-il devenu trop cher? Ce sera le troisième débat. Et puis enfin, on parlera de l'IA chinoise moins chère, performante, open source. Elle séduit de plus en plus entreprises et administrations. Mais peut-on dépendre de Pékin pour échapper aux géants américains? Ce sera le dernier thème des débats avec mes experts ce matin. Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est les experts. C'est parti. Et les experts ce matin s'appellent Dorothée Rouzet. Bonjour Dorothée.
Bonjour.
Chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Olivier Rodoulès, bonjour.
Bonjour.
Directeur des études de Rex et Code. Et Olivier Lanty, bonjour Olivier.
Bonjour.
Professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. Alors on va commencer par les questions budgétaires. Ce matin, on a eu hier un comité d'alerte sur les finances publiques, alors qui est passé un peu en second rang de l'actualité derrière Marine Le Pen, l'actualité judiciaire et la candidature de Marine Le Pen. Mais il y a quand même des informations importantes qui ont été communiquées hier. D'abord, Bercy a révisé sa prévision de croissance de 0,9% à 0,7% et a annoncé par ailleurs 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires en gel de crédit pour essayer de tenir les 5% de déficit cette année. Mais le ministre des Comptes publics a d'ores et déjà prévenu, Dorothée Rouzet, il sera difficile d'atteindre les 5% cette année. Pourquoi? Et la trajectoire est-elle quand même tenable?
Je pense que ce qui est important, c'est et c'est l'objet de ce comité d'alerte des finances publiques, c'est de suivre les risques sur cette trajectoire et d'agir autant que possible et aussi tôt que possible. Et c'est l'objet de ce comité qui a été créé l'année dernière, hein, qui avait déjà donné lieu l'année dernière à des alertes précoces, des annulations de crédit précoces.
Et qui permet de gérer en cours d'année, effectivement, de mieux piloter.
De gérer les risques en cours d'année. Finalement, l'année dernière, on a eu un déficit qui était moins élevé que prévu.
5,1 au lieu de 5,4%.
Grâce à ces mesures.
Alors, les risques, c'est quoi?
Donc, cette année, alors le principal risque, en fait, il est déjà avéré. C'est pour ça que la croissance a été révisée. C'est-à-dire que par rapport au mois d'avril, qui était le dernier rendez-vous, à la fois de ce comité d'alerte, aussi la dernière fois où le gouvernement a actualisé ses prévisions de croissance. Il s'est évidemment passé beaucoup de choses dans l'économie mondiale. Mais presque paradoxalement, en fait, le principal facteur qui fait réviser la croissance à la baisse, c'est pas la crise en Iran. Ah. Alors, depuis le mois d'avril, on est passé par différentes phases. Le prix de l'énergie et du pétrole, notamment, a beaucoup augmenté et rebaissé. Et finalement, on n'est pas très loin des hypothèses qu'on avait sur le prix du pétrole au mois d'avril, quand on regarde les futures, quand on regarde les prix de marché. Sur le gaz, on est même en dessous. On a quand même.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de cagnotte sur les recettes.
Il n'y a pas de cagnotte, au contraire, sur les recettes énergétiques.
On en a beaucoup parlé.
Le volume de consommation de carburant, les Français ayant acheté moins de carburant, il y a moins de recettes au total. Et puis il y a un autre facteur, hein, qui est que on a eu depuis les chiffres du premier trimestre qui ont déçu tous les prévisionnistes. Personne ne s'attendait à un chiffre négatif.
Croissance négative, donc ça moins 0,1.
Ça a une répercussion assez mécanique sur la croissance de l'année. Ça explique une partie de cette révision de la croissance à 0,7. Donc il y a le choc en Iran, et puis Oui, je dirais, on est passé par des hauts et des bas. On voit bien aujourd'hui que la trêve est toujours un peu fragile et qu'on a toujours beaucoup d'incertitudes. C'est aussi pour ça que garantir un chiffre de déficit à la décimale près, quand on est dans un monde aussi incertain sur le plan macroéconomique, ça a des incidences sur ce que font les entreprises, sur les recettes fiscales, etc. C'est compliqué. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'assurer le maximum, de prendre les mesures qu'on peut prendre en cours d'année. Ça a été fait déjà une première salve après avril, après les alertes d'avril, de 4 milliards sur les crédits de l'État et de un peu plus de 2 milliards qui correspondent au gel des allègements généraux.
Alors est-ce qu'on a vraiment là, les 6 milliards d'économies annoncées à Bercy? Il y a eu une petite polémique là-dessus en disant qu'on n'y était pas tout à fait quand même.
Alors sur les, voilà, il y a en gros un peu plus de 2 milliards sur qui correspondent au gel des allègements généraux et donc au moindre coût de hausse des allègements généraux. Et il y a 4 milliards d'annulation des crédits qu'on peut engager sur l'État.
Les allègements de charges sur les entreprises, 2 milliards 2, effectivement. Ce qui a fait bondir le MEDEF en disant on augmente les impôts sur les entreprises, mais tout le monde doit participer à l'effort. Olivier Redoulès, est-ce que la trajectoire pourrait être tenue cette année? Et 3 milliards d'économies à faire, on n'a pas le détail, Dorothée Rousset, on est d'accord?
Non, pas encore, mais c'est, voilà, ça
alors,
sera détaillé.
Où est-ce qu'il faut aller faire, Olivier Redoulès, ces efforts? Et puis même question à Olivier Loancy ensuite.
Bon, premier point, c'est effectivement une bonne chose qu'on ait mis en place ce comité d'alerte et qu'il fonctionne. En fait, si on revient un peu en arrière, on tire les enseignements des dérapages qui nous avaient un peu tout surpris en 2024 et on avait vu qu'on s'était comparé aux autres pays européens.
Et 2023, sur les recettes.
Les autres pays, en fait, avaient su ajuster leur trajectoire en cours d'année. Nous, on ne l'avait pas forcément fait. Et donc, c'est effectivement bien de pouvoir fine-tuner en cours d'année et d'ajuster les choses. Après, effectivement, ce qui est le plus inquiétant, sans doute, c'est le chiffre que le Trésor avait publié, je ne sais pas si c'est le Trésor, mais en fait, il y a une note qui avait fuité, qui disait que, de manière un peu spontanée, si on fait rien, la trajectoire un peu dynamique, la dynamique un peu spontanée des dépenses nous amène à 6,2 de déficit l'an prochain. Et ça, c'est très inquiétant.
Information révélée sur BFM Business.
Ça montre que au fond,
qui n'était pas une publication du Trésor.
Qui n'était pas une publication du Trésor.
Voilà, qui est quelque chose qui a fuité du gouvernement, mais globalement, de fait, en fait, ça montre. Alors peut-être que c'est un peu fort. De toute façon, c'est des hypothèses. Il y a forcément une dose d'incertitude, mais ça tend à montrer que au fond, il y a une dynamique de dépenses un peu sous-jacente, qui nous amène vers le déficit. Et donc, il faut mettre en place de nouvelles mesures chaque année, juste pour compenser cette dynamique de dépenses.
Oui.
Après, effectivement, je rejoins Dorothée, en fait, avec ses codes, on est aussi à 0,7 en prévision pour 2026. On avait publié ça la semaine dernière auprès de nos adhérents.
La Banque de France était plus sévère, prévoit 0,5.
Oui, mais c'était avant l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc, des hypothèses assez différentes. En fait, il faut vraiment regarder à quelle date les gens ont fait leurs prévisions pour les comparer.
De fait, on a eu aussi une partie de la surprise du premier trimestre, elle est liée à la construction. Alors, au fond, on s'attendait à un redémarrage à la construction, il y a eu plutôt une baisse, mais les leçons des années précédentes, c'est que l'économie est quand même assez résiliente. Elle nous a plutôt surpris à la hausse.
Les entreprises s'adaptent à la permacrise.
Même les révisions des comptes qui sont survenues à la fin du mois de mai nous ont montré qu'au fond, l'économie se situait plus en termes de quantité de production que ce qu'on pensait. Et en fait, pour venir à ta dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire? Au fond, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de tant de déficit? Parce que, ou est-ce que notre situation de croissance justifie un tel déficit? Il faudrait sans doute y aller plus franco, plus sur les dépenses, mais ça pose une question de mandat politique que personne n'a aujourd'hui.
Oui, et puis de casser la croissance, Olivier Loancy, non? Si on fait de la rigueur assez fort aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que...
Deux réactions.
Justement, trop brutal pourrait peser sur la croissance.
Ouais. Deux réactions. D'abord, sur ces révisions de chiffres, encore une fois, vu du monde économique, des industriels que je croise, des trajectoires qui sont optimistes parce qu'elles essayent d'optimiser politiquement. On connaît ça depuis longtemps. Donc, ce type de réajustement, il vient peut-être à temps, etc. Mais on s'y attendait d'une certaine façon.
Oui.
Encore une fois, en tous les cas, le monde que je côtoie d'industriels, c'est pas une surprise.
On savait qu'on serait pas à 0,9% de croissance à la fin de l'année.
Et quelque part, c'est enfin. Alors, c'est super d'avoir un système d'alerte, mais enfin, avoir un calage initial qui était plus prudent n'aurait pas été plus mal non plus. Ça, c'est le premier point global. Et le deuxième, sur les solutions, alors elles n'ont pas été énoncées. Moi, je me réfère juste à ce qu'a dit le ministre Roland Lescure récemment à Aix à propos, par exemple, d'économies sur le crédit d'impôt recherche.
Oui.
J'ai l'impression qu'on va rechercher encore une fois, comme à l'automne, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de réformes, notamment du système de retraite. À l'automne, on a sacrifié une partie de l'apprentissage. Maintenant, on va sacrifier une partie de la recherche où on dit qu'il y a une recherche lambda, enfin le terme est fort, pour ceux qui connaissent le développement technologique, il n'y a pas que de l'innovation de rupture, c'est bien, c'est important, il ne faut pas le sacrifier, mais tous les jours nos industriels accompagnent la modernisation de leurs produits, de leur chaîne de production, ce n'est pas de la recherche lambda, c'est la recherche socle du développement technologique, c'est une forme de violence faite autour de la recherche et du développement pour un gouvernement qui le défendait, je trouve que c'est gravissime comme message. Voilà. Et donc, encore une fois, enfin, on va se retrouver dans la même situation que celle qu'on commentait à l'automne, parce qu'on n'a pas fait les réformes structurelles que tu évoquais. On va renier surtout les atouts pour le futur. La jeunesse, la recherche, le développement.
Vous êtes en train de nous dire, Olivier Lanzi, que parce qu'on n'ose pas toucher aux retraites, on est en train de faire les fonds de caisse un peu partout ailleurs.
Bah, ça vous donne quelle impression ?
Je voudrais revenir quand même sur ce que tu disais, Raphaël, tout à l'heure. Est-ce que baisser la dépense va peser sur la demande ? En fait, on fait tellement de déficits, on se dit qu'au fond, il y a tellement de dépenses publiques, on devrait avoir une croissance bien supérieure à celle qu'on a si ce type de mécanisme marchait. Alors, c'est vrai, dans certaines situations, quand on est ce qu'on appelle des situations de trappe à liquidité, quand l'inflation est proche de zéro ou autre, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. En fait, on a plutôt des taux relativement élevés, on a plutôt de l'inflation relativement élevée. Donc, au contraire, là, si on libérait de la dépense, si on baissait la dépense, ça libérerait des ressources pour l'économie et pour venir plus précisément sur les retraites. Bon, on a vu qu'on a soutenu très massivement le pouvoir d'achat des retraités ces dernières années.
Oui.
Ça ne s'est pas traduit par plus de consommation, ça s'est surtout traduit par plus d'épargne.
Plus d'épargne.
Et plus de déficit.
300 milliards par an.
Trois quarts de la hausse de 2024, des 15 milliards de hausse de 2024, on finit sur des livrets d'épargne de nos seniors. Oui, Dorothée.
Oui, non, juste pour réagir, mais plutôt dans le sens d'Olivier, je pense qu'on a une phobie de dire si on fait la moindre baisse de dépenses, ça va casser la croissance. Je pense d'abord, c'est plus nuancé parce que ça dépend quelle dépense, ça dépend quelle recette.
Enfin, oui.
C'est-à-dire que c'est pas juste, on baisse
le déficit. On peut le faire intelligemment, c'est pas interdit.
On peut le faire intelligemment, d'une part, et c'est quand même voilà, certaines catégories de population consomment plus que d'autres.
Le CIR, c'est intelligent. Le crédit impôt recherche.
Bah, le CIR, on a fait la dernière fois.
Investissement, innovation.
Y a eu quelques centaines de millions sur le CIR qui étaient sur des dispositifs qui n'avaient pas prouvé leur efficacité. Donc ensuite, il faut regarder avec beaucoup de prudence parce que le CIR est un vrai facteur d'attractivité,
oui.
Est un vrai facteur d'attractivité de la recherche. C'est pas le premier objet à toucher. Mais je pense qu'il faut potentiellement rien s'interdire, en tout cas de regarder en termes d'efficacité. Et l'autre point sur la croissance, hein, c'est qu'on est aussi un peu à un point où on peut se poser la question de est-ce que ne pas réduire le déficit à un moment, ça a aussi un impact sur la croissance parce que ça crée de l'incertitude fiscale. Je pense que les Français et les entreprises ont bien compris qu'à un moment, il fallait réduire le déficit. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais donc, on peut être aussi dans l'attentisme en se disant, je sais pas à quelle sauce fiscale je serai mangé l'année prochaine. Et parce que si nos taux d'intérêt s'écartent, les taux d'intérêt que paye l'État, à la fin, ça se répercute sur les entreprises, sur les ménages.
Et
ça a un effet aussi. Donc, je pense qu'il y a
la rigueur peut être favorable à la croissance.
Pas rester dans la myopie à dire, en tout cas, ne rien faire ou laisser le déficit filer. C'est pas de manière univoque bon pour la croissance, à mon avis.
Olivier Anti.
Ouais, je reviens juste sur le CIR. Je vous rappelle l'annonce qui a été faite il y a quelques jours de Renault qui supprime 800 ingénieurs. Encore une fois, le CIR, on en a déjà discuté ici, a beaucoup de mérites et des faiblesses qu'il faudrait peut-être corriger. Mais il permet d'avoir des ingénieurs qui développent des nouveaux produits, qui font de la recherche et du développement à un prix à peu près compétitif. Ils sont plus chargés que dans d'autres pays, mais le CIR permet de ramener leur coût total à quelque chose de comparable, ou en tous les cas d'un peu plus proche à l'Allemagne. Si on va dans ce type de direction-là, il ne faut pas s'étonner, les cerveaux, aujourd'hui, ça se délocalise.
Ben oui.
Les gens ont tous appris depuis le Covid à travailler sur des plateformes numériques. Vous allez chercher un ingénieur indien, un ingénieur marocain, voire un ingénieur chinois, qui vous coûteront moins cher. Vous garderez une petite équipe pour faire la relation commerciale en France. Point barre. Donc, on touche véritablement même au cœur du modèle qu'on voulait défendre, que je trouve trop pointu, qui est de dire on doit garder la recherche, on doit garder l'innovation. Il y a des gens qui disaient il faut éloigner la production, je ne fais pas partie de ceci, mais là on touche au cœur même du modèle historique qu'on avait voulu mettre en place. Que nous restera-t-il après ?
Allez, je voulais une dernière question rapide, parce que je voudrais qu'on passe au travail des jeunes et cette étude passionnante de Rex et Code. Mais est-ce qu'il faut instaurer une règle d'or? C'est un des thèmes de débat. Édouard Philippe préconise une règle d'or, par exemple. Est-ce qu'il faut lier les mains des politiques pour réussir à avoir un budget à l'équilibre? Pour ou contre, Dorothée Housset?
Moi, je suis pas convaincue. Je pense que, enfin, dans l'absolu, des règles, on en a.
C'est vrai qu'on a la règle des 3% etc. qu'on n'a jamais respectée.
Écrire une règle d'or sans le premier moyen de comment on va la respecter, je dirais, ça crée du processus, mais ça crée pas du consensus politique sur les mesures à prendre. Et je pense que, je dirais, si un nouveau gouvernement en place au début de l'année prochaine doit mettre beaucoup de capital politique sur faire passer une règle d'or, c'est du capital politique qui n'est pas mis sur les mesures qui vont vraiment faire baisser le déficit. Et à mon avis, dans une phase de début de mandat où on a justement un momentum pour faire quelque chose, l'urgence ne doit pas être sur les institutions et la gouvernance, mais plutôt sur les vraies mesures.
Olivier Redoulès.
Je rejoins assez largement Dorothée, c'est-à-dire, en fait, la règle d'or, c'est un peu l'étiquette, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une philosophie de la dépense publique où on part des ressources pour aller vers la dépense. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, en fait, on voit bien le processus de dépense publique, on part beaucoup de besoins, on liste des besoins et après, on essaie de négocier. Alors, quand on arrive à faire le déficit, on fait le déficit. Quand on n'arrive pas à faire le déficit, ça coince. En fait, si on prend les pays qui gèrent bien leurs finances publiques, ils partent plutôt des ressources et donc et puis ensuite ils adaptent et donc c'est une philosophie assez descendante.
Alors, changement culturel,
c'est changement culturel, mais aussi il faut aussi avoir un autre changement philosophique qui est encore plus fort, c'est de se dire que c'est pas forcément mieux quand c'est la dépense publique qui fait, parce que d'un certain côté il y a une mutualisation, il y a tout plein de choses qui font sens d'être mutualisé, mais une dépense publique, en fait, ça fait deux distorsions à l'économie. D'une part, parce qu'en fait, à un moment donné, l'État, la collectivité prend des ressources, alloue des ressources, mais de façon qui n'est pas forcément adaptée au terrain, en fait, on le voit au quotidien. Mais par ailleurs, il faut taxer, donc prendre de l'argent au secteur privé, donc c'est sur du travail, sur des rendements du capital, sur la consommation. Et cette double distorsion fait qu'il y a un coût à l'action publique, à la dépense publique, qui est souvent sous-estimée en France. On part en général du point de vue qu'en fait, l'État, c'est mieux, l'État au sens large. Mais en réalité, quand on regarde dans les autres pays, ils arrivent à des performances sur même des dépenses clés comme la santé, l'éducation, meilleures que nous en dépensant moins.
Et oui, si le bonheur était indexé sur le taux de dépenses publiques, nous serions le pays le plus heureux du monde. Même question, Olivier Luancy, faut-il ou pas une règle d'or?
La question possède la réponse. Si on fait une règle d'or, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans nos politiques.
Imaginez dernier budget à l'équilibre, 1974.
L'entreprise, le corps de l'entreprise n'aurait pas confiance à son dirigeant. Alors, je sais qu'on ne peut pas toujours faire le parallélisme entre gouvernance publique et gouvernance privée. Non, il faut qu'on retrouve cette confiance dans notre démocratie, il faut qu'on retrouve cette confiance dans un projet collectif. On peut se mettre 25 000 règles, tant qu'on n'aura pas ce projet et la confiance qu'on accordera effectivement dans le cadre démocratique, auquel je crois fondamentalement, ces règles-là, de toutes les façons, et on l'a vu avec le 3% de Maastricht, oui, trouveront moyens et voies pour être détourner, contourner, tout simplement.
La dépense, c'est comme l'eau, elle trouve toujours un chemin quelque part. Laurence C réagit sur mon compte Twitter, n'hésitez pas, @legenra. Sur le CIR, elle nous explique qu'elle a monté pour une entreprise un dossier du Crédit Impôt Recherche il y a quelques années. 15 ans plus tard, elle n'a toujours pas déposé de brevet, mais a récupéré plus de 120 000 euros d'impôts. À quand un rapport sérieux sur les mérites du CIR? On voit qu'il y a des doutes, hein.
Moi, je peux commenter ce point de vue parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est le CIR. Le CIR, ça permet de réduire les coûts, comme Olivier Luancy en a parlé. En fait, on taxe beaucoup les entreprises. On pourra aller dans les détails, mais globalement, on taxe beaucoup les entreprises. Elles sont plus taxées que les autres pays européens. Rex et Code a publié un certain nombre de travaux sur ça. Et là, on a dit, sur certaines activités qui nous semblent intelligentes, qui nous semblent plutôt à garder en France, on va taxer un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas taxées, mais elles sont taxées un peu moins. Donc, notamment sur le coût du travail des chercheurs. Mais de fait, on est dans une dynamique où, en fait, on subventionne une recherche qui, des fois, fonctionne et des fois, ne fonctionne pas. On subventionne aussi des activités qui rentrent dans la recherche, mais qui ne sont pas forcément elles-mêmes, une par une, de la recherche. Et c'est là où on trouve parfois des émissions, où on trouve telle réunion qui ne faisait pas sens, qu'on a mis dans un truc de recherche, mais en fait, on ne voyait pas forcément un brevet en tirer rapidement. Et ça, ça pose un problème sur la philosophie de notre fiscalité, de nos aides aux entreprises. Dans d'autres pays, en fait, on aide moins. Et on taxe moins, mais ça change tout du point de vue, par exemple, de l'innovation. C'est-à-dire, au fond, quand on veut faire une innovation ultra risquée, on est prêt.
Bah, on prend son risque. Prêt à voilà, investir. Aux États-Unis, on doit se prendre son risque.
Mais on est prêt à investir quand ça réussit, ça fonctionne beaucoup.
Quand ça paye.
Si ça rapporte énormément. Or, qu'en France, on est plutôt dans une sorte d'eau tiède où si ça marche bien, on gagne pas trop. Et par contre, si ça rate, on perd pas trop. Et ça, au fond, ça fait des transferts un peu en permanence des innovations gagnantes vers celles qui sont un peu moins gagnantes. Et c'est pas forcément ce qui est le plus favorable à l'innovation.
Et puis, le CIR est un crédit d'impôt, comme ça a été expliqué. C'est pas une subvention avec une conditionnalité, aussi. Donc, le mécanisme qui a été présenté à l'instant, enfin, n'est pas tout à fait le même. Vous me donnez une subvention, il faut qu'à la fin que vous déposiez un brevet, il y a une conditionnalité. Là, on est sous une forme de crédit d'impôt.
Oui.
C'est une intervention différente.
Et on rappelle que les entreprises françaises sont parmi les plus taxées du monde, sont aussi énormément aidées, le niveau d'aide est très élevé, mais même retraitées de ces aides, nos entreprises restent plus taxées que les autres. Allez, il faut qu'on avance, je voulais qu'on parle de cette étude Rex et Code, Olivier Redoulès, sur l'emploi des jeunes avec des propositions un peu disruptives qu'on va mettre sur la table. Vous dites que la France travaille moins que ses voisins et que chez les jeunes, l'écart, évidemment, vient surtout des NEETs. Alors, on va rappeler ce que sont les NEETs, peut-être, pour commencer, et combien ils sont. Parce qu'on entend beaucoup de chiffres, là, vous le chiffrez précisément.
Peut-être, pour commencer, en fait, on commence cette étude par contredire une idée reçue. On a toujours en tête l'idée, c'est des sortes des lieux communs qui circulent parfois des médias, où les jeunes ne travaillent pas assez ou travaillent peu en France, ou sont des fainéants ou autres. En fait, quand on compare la quantité de travail par habitant de la France aux autres pays, effectivement, sur l'ensemble de la population, on travaille beaucoup moins que les autres pays. On est le troisième pays de l'Union européenne qui travaille le moins en nombre d'heures travaillées rapportées par personne âgée de 15 à 60
population.
Ans. C'est la quantité de travail, c'est comme ça qu'on l'a défini. Et en fait, l'écart, c'est à peu près 100 heures, par exemple, avec l'Allemagne, 107 heures. L'écart, il vient surtout quand même des 60 à 65 ans. Voilà, ce sont des seniors. C'est là où on a le gros du sujet. Sur les 25 à 54 ans, il n'y a quasiment rien. Voilà. Et puis, les jeunes, ils contribuent peu. Ils contribuent un petit peu à cet écart parce que globalement, ce sont des règles qui font qu'on travaille un peu moins partout. Mais ils contribuent un peu à 20% à peu près de l'écart. Donc, si on veut vraiment, si on se pose la question de quantité de travail et d'économie, c'est un sujet de seniors, c'est un sujet de retraite. Alors, effectivement, quand on regarde chez les jeunes, ils sont, contrairement au, j'ai dit pour l'ensemble de la population, on est tout en bas. Chez les jeunes, on est plutôt dans le tiers supérieur en termes de quantité de travail des jeunes. En taux d'emploi, on est juste à la moyenne européenne. On est en dessous de quelques champions que sont l'Allemagne ou les Pays-Bas. Oui. Je reviendrai derrière. Certes, les jeunes travaillent moins pareil que le cœur de la population parce qu'ils sont plus souvent en études. Mais par exemple, les jeunes qui travaillent, qui sont salariés à temps complet, ils travaillent plutôt plus que les autres parce qu'ils ont moins de congés, ils sont moins souvent malades. Donc, il y a une partie de jeunes quand même qui sont à temps complet, 20% à peu près. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, qu'on a essayé de regarder où ça coince, on a deux sujets. On a un premier sujet qui... Alors, le taux d'étudiants est à peu près comparable entre les pays. Et le taux d'emploi, comme je dis, on est à la moyenne européenne. On a deux sujets. On a le sujet des NEETs. Et on a le
Donc
sujet
les NEETs,
des...
c'est jeunes sans emploi, ni diplôme, ni formation. Des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans aucune qualification. Ils sont près d'un million. 880 000, vous dites.
Alors, 880 000...
On entend souvent les chiffres de 1 million à 1 million et demi. Alors, c'est
ça dépend
de
quelle tranche d'âge. Si on est entre 15 et 24 ans, c'est ce chiffre-là. Si on va jusqu'à 30 ans, jusqu'à 29 ans, c'est plutôt 1,5 million. Donc, de toute façon, c'est massif. C'est plus important que les autres pays rapportés à la population. En fait, c'est très important. Et c'est surtout, en fait, c'est là où, sans doute, on a vraiment des enjeux d'insertion. C'est là où on crée les futures personnes qui auront du mal à s'insérer sur le marché du travail. Et il faut dire que on cumule les problèmes parce qu'on a sans doute un problème lié au système éducatif là-dedans qui joue en fait.
Ah bah c'est le signe patent, l'échec du système scolaire.
Il y a une étude de l'INSEE, par exemple, une étude de l'INSEE qui est parue au début de la décennie qui montrait que globalement en fait les résultats au brevet est un bon prédicteur déjà du fait d'être NEET ou autre à 25 ans. Donc, pour dire
donc ça commence très jeune.
L'hystérèse de persistance qu'on a dans les parcours. Donc le sujet des NEET, c'est clé. Mais quand on se compare aussi aux autres pays, par exemple aux champions entre guillemets du travail des jeunes, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne. On a aussi quelque chose qui nous différencie, c'est que nos étudiants travaillent beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins à travailler.
Par exemple,
durant leurs études et de manière régulière. Donc on regarde le taux d'emploi, le taux d'emploi des étudiants ou autre. On est peut-être à 75% aux Pays-Bas et nous plutôt à 25% pour la France. Et si on prend vraiment des gens, le cœur des vrais cumuls emploi-études, on est plutôt même à 5%. Donc, de fait, en fait, on a des marges et on voit bien on voit bien les avantages, c'est-à-dire que les étudiants se consacrent à leurs études.
Bah oui,
non, mais on voit bien aussi dire,
c'est en même temps, si on bosse en même temps des études, c'est peut-être plus compliqué aussi d'étudier.
Oui, mais dans ces autres pays, les étudiants sont pas forcément moins bien lotis, ils sont pas forcément non plus.
Ils y arrivent quand même.
Ils s'insèrent très bien ou autre, et donc ça pose une question aussi de niveau de vie des étudiants. Ça pose aussi, parce que c'était aussi l'angle de départ de notre étude, question de quantité de travail et économie, et donc il y a des choses à aller chercher.
Est-ce qu'il faut mettre les étudiants au travail dans Otahouzé?
Je pense que ça veut dire, il y a du pour, il y a du contre, hein. Je pense que Olivier l'a dit. Et puis, c'est un peu différent quand on parle de l'étudiant qui fait un stage dans une entreprise, qui a un lien avec ses études et qui va lui faciliter son insertion, ou de l'étudiant qui bosse tous les soirs. C'est pas exactement la même chose. Je pense que, effectivement, ça interroge quand on regarde, on se dit, quelque part, si aux Pays-Bas, c'est 75% et nous, 25%, où est le bon point? Je le sais pas. Ça pose des questions d'équité parce que il y aura toujours les étudiants des familles les plus favorisées qui pourront se permettre de ne pas travailler pendant leurs études. Ça pose potentiellement des questions de réussite, mais j'ai envie de dire si le fait qu'on ait peu d'étudiants qui aient des jobs étudiants leur permettait de se consacrer pleinement à leurs études et de mieux réussir, on devrait pas avoir autant d'échecs en premier cycle. Donc quelque part, ou en tout cas comparé aux autres pays. Donc c'est vrai que ça pose la question. Je pense que fondamentalement ça pose deux questions pour moi. L'une c'est je dirais le travail en lien avec les études, et là je serais intéressée, je le sais pas, de comparer avec les autres pays pour savoir si justement le développement des stages, de plus d'intégration entre les besoins des entreprises et l'université, ça marche mieux ailleurs. Il y a la question de l'apprentissage, mais il n'y a pas que la question de l'apprentissage. Et puis de l'autre côté, en fait, est-ce que un modèle où les études qui sont aujourd'hui quasi gratuites en France, elles sont un peu plus chères, ça donne un peu plus de moyens aux universités qui en manquent. Et par ailleurs, on a plus de prêts étudiants, plus de jobs étudiants. Et ce système-là, est-ce qu'il marcherait pas mieux, finalement, à la fois en termes de performance du système d'enseignement supérieur et d'insertion des étudiants dans la vie active ensuite? Est-ce que ça pourrait être aussi des voies qui pourraient fournir un meilleur équilibre?
Mais Olivier Lanty.
Sur les étudiants, c'est pas complètement évident parce qu'on a quand même envie que leur premier focus, ce soit leurs études.
Moi, je vous rejoins assez en disant que c'est le symptôme le plus fort de l'échec global du système. On a complètement mis de côté toutes les filières professionnelles d'apprentissage. C'était la filière par défaut dans laquelle on mettait les élèves dits en échec. Parce que il y a une norme
de garage,
sur les enseignements
très
généraux, etc. Il y a des gens qui apprennent à partir du faire et qui remontent à la théorie. Tout le monde ne part pas de la théorie pour descendre sur le faire. On n'est pas tous fait pareil. On a un système qui s'est concentré sur un modèle pédagogique et on en a aujourd'hui le résultat. Donc oui, on a, je dirais, le résultat d'un choix qu'on a fait depuis longtemps. Alors on peut stigmatiser le 80% d'élèves au bac, etc. Mais surtout, de ne pas avoir valorisé pour les gens dont ça fait partie des talents, encore une fois, je dis bien des talents, des filières d'excellence sur l'apprentissage, sur la professionnalisation.
L'industrie, comme le fait la Suisse, par exemple.
Comme le fait la Suisse ou l'Allemagne, l'industrie ou même l'entreprise est aujourd'hui sans doute le lieu d'insertion qui marche le mieux. Utilisons-la, notamment pour ces jeunes qui n'ont pas les facilités que le système, entre guillemets, officiel voudrait qu'ils aient, alors qu'ils ont plein d'autres talents qui peuvent très bien servir notre économie.
Allez, il faut qu'on se quitte pour une très courte pause. Restez avec nous. On va continuer en parlant exportation, commerce extérieur. Le Made in France est-il devenu trop cher? Et le déficit, c'est encore creusé, le déficit commercial au mois de juin. Et puis, on parlera d'IA chinoise qui est en train d'arriver en force dans les entreprises et l'administration française. Ne quittez pas, on se rejoint tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business. BFM BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 1 minute, c'est la seconde partie des experts. On est encore ensemble pour une bonne demi-heure de débat. On va analyser les chiffres du commerce extérieur du mois de mai, me corrige Dorothée Rouzet. Mais oui, bien sûr, c'est le déficit du mois de mai. Mais il touche quand même près de 7 milliards, on est d'accord. Hein, ouais, c'est pas terrible. On va retourner encore une fois sur une étude de Rex et Code, hein, qui a quelques jours, mais toujours absolument passionnante, qui parlait de ce positionnement des produits français, produits manufacturés français, du positionnement prix, notamment qualité, innovation, notoriété. On est plutôt bien perçu à l'étranger, mais on est trop cher, dit Rex et Code.
Oui, alors effectivement, on a sorti cette étude il y a quelques temps, et on l'a fait tous les avec l'école Schema Business School.
Oui,
c'est un partenariat qu'on fait à deux. Et l'idée, c'est vraiment de demander aux importateurs étrangers comment se situe la France par rapport à différents pays sur des critères hors prix, ce qui est pas ce que l'on mesure avec des chiffres, mais c'est ce qui nous intéresse. Alors, chaque étude, de toute façon, a ses fragilités, ses faiblesses, mais la force de cette étude, c'est d'abord d'exister et de nous dire, oui, que, au fond, sur un certain nombre de critères de qualité, on n'est pas si mal que ça. Sur les prix, on est très élevé. On est moins élevé quand même qu'à l'Allemagne, il faut le savoir. Mais en fait, en termes de...
Ce qu'on dit traditionnellement, prix, c'est qu'on vend des produits de qualité espagnole au prix allemand.
C'est alors, non, on est quand même, on est mieux situé en termes de qualité que l'Espagne, même que l'Italie, de manière générale. Après, il faut regarder chaque ligne. Par contre, quand on fait le rapport, effectivement, en général, on pêche par rapport à l'Allemagne, qui, au fond, s'est situé à un niveau de gamme qui lui permet d'avoir des prix très élevés tout en restant compétitif. On se fait aussi rattraper de plus en plus par la Chine sur la qualité. Ça, c'est quelque chose. Pendant très longtemps, on a assimilé collectivement un petit peu Chine, bas coût, basse qualité. C'est plutôt vrai. Il suffit de monter dans une voiture chinoise pour se rendre compte. Donc, de fait, en fait...
Le coût reste toujours faible, mais la qualité nous dépasse.
On est un petit peu pris en étau. De la même façon, d'ailleurs, que l'Espagne et le Portugal l'étaient au moment de l'entrée de la Chine dans l'OMC. Nous, on y est un petit peu aujourd'hui. Ça pose des questions pour la suite. Ça pose des questions notamment de compétitivité hors prix. Et là, on voit quand on regarde, alors, tu parlais du déficit extérieur. En fait, on voit que sur le plan du commerce extérieur, on a un monde un petit peu à plusieurs vitesses. C'est-à-dire sur certains secteurs sur lesquels on est très fort, l'aéronautique et l'espace, ça va plutôt bien. Après, il y a un certain nombre de secteurs où ça va mal. Alors, pour tout un tas de questions. Mais par exemple, on n'est pas très fort sur les biens de consommation hors luxe. Où là, pour le coup, on a réussi à s'affranchir et d'ailleurs on voit les créations d'emplois d'Hermès ou de LVMH sur le territoire. Donc ça pose ce type de question, ça pose une question toujours de la compétitivité du site France. Or, on a parlé un peu des allègements de cotisations sociales. Une façon quand même de regarder où on se situe, c'est de comparer le coût du travail et la productivité. Parce que, à la limite, un coût du travail très élevé, notre coût du travail horaire, il n'est pas plus élevé que celui de l'Allemagne ou des Pays-Bas. On est arrivé, grâce aux différentes mesures comme le CICE ou autre, à le ramener en dessous. Par contre, quand on tient compte de la productivité, par exemple le PIB par habitant ou le PIB par heure, bah, en fait, on voit qu'on a quand même un écart. En fait, on est plutôt en haut d'une courbe qui est assez linéaire entre pays européens, et nous on est un peu au-dessus. Donc ça interroge quand même, on se dit que certes on a fait beaucoup d'efforts, et voilà, le CICE, la baisse d'allègement de cotisations et tout ça a quand même réduit le gap avec les autres pays, mais on partait d'un niveau tellement important qu'au fond on reste...
750 milliards les charges sur les entreprises.
On revient toujours derrière sur le modèle social.
70. Dorothée, juste un point sur le commerce extérieur, pourquoi ça se dégrade au mois de mai? Quels sont les...
au mois le mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui. Hein, au mois de mai, on a un peu moins de factures énergétiques parce que les prix des énergies s'étaient un peu repliés par rapport à avril. On a une détérioration sur certaines lignes industrielles. Par ailleurs, le commerce de services va mieux, donc la balance des services s'améliore. Je pense qu'il ne faut pas trop regarder les évolutions au mois le mois, c'est assez heurté.
Alors, structurellement,
ça dépend des livraisons aéronautiques, etc.
Parce que ça s'améliore quand même sur longue tendance.
Voilà, alors sur longue tendance, ça dépend de l'horizon qu'on prend. Si on compare par exemple par rapport à 2019, un peu avant la succession de chocs qu'on a connue, en termes de compétitivité prix, on s'est plutôt bien tenu, notamment parce que sur les coûts, ça a été tenu par un certain nombre d'efforts qui ont coûté de l'argent public, hein, que ce soit sur les allègements de cotisations, sur les impôts de production, et aussi par le fait qu'on a eu une inflation assez nettement plus basse en cumulé au travers de la crise énergétique de 2022-23 et depuis que nos partenaires européens. Donc, Donc par rapport à l'Allemagne, on a regagné en compétitivité prix par aussi le fait d'avoir contenu l'inflation. Et donc les coûts salariaux et la progression.
Le bouclier énergétique nous a coûté très cher, donc, mais nous a permis de gagner 10 à 15 points de
sur les prix, ça s'est tenu par rapport à nos partenaires européens. Évidemment, il y a le gros sujet chinois. Qui arrive et qui quand on regarde, alors en fait c'est assez compliqué en fait de regarder les importations chinoises et de faire un diagnostic parce que les importations on les voit en valeur. Or ce qui se passe quand on regarde un peu sous le capot, quand on essaye de décomposer, c'est que on a le volume d'importation qui augmente et leur prix qui baisse. Donc quelque part vous pouvez avoir le même montant qui arrive, mais en fait c'est plus de containers avec des prix qui baissent. Et donc ça, en termes de compétitivité, évidemment, ça nous pose un problème dans beaucoup de secteurs. Ensuite, sur les parts de marché, bon, on a perdu un grand coup, je dirais, au moment du Covid. Depuis 2022, on est plutôt en train de regagner des parts de marché.
On regagne des parts de marché à l'international.
Notamment dans nos forces, hein, l'aéronautique, évidemment, est un gros contributeur. Airbus continue sa montée en cadence et ça contribue de manière significative à nos exportations. Par contre, si on voit, par exemple, où était le commerce, qu'est-ce qui a porté le commerce mondial l'année dernière? 2025, ça a été une année assez surprenante sur le commerce mondial, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les droits de Donald Trump, on s'attendait à un gros ralentissement.
Et ça a progressé.
Finalement, ça a progressé. Pourquoi? Parce que IA. C'est-à-dire que c'est le commerce de puces, de serveurs, etc., de tout ce qui est lié à l'IA qui a porté le commerce mondial. Nous, on n'est pas présents sur ce segment. Donc finalement, on n'en a pas tellement profité. Mais on garde, je dirais, nos bastions que sont l'aéronautique, le luxe, où effectivement, on n'est pas pour l'instant vraiment concurrencé. Mais dans un certain nombre d'autres industries, on a un sujet, on tient la compétitivité prix par rapport à nos partenaires européens, mais pas par rapport à la Chine. Et donc, je rejoins là aussi ce que dit Olivier, c'est qu'on n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que la montée en gamme, l'innovation, d'aller sur la compétitivité hors prix, parce que sinon, on ne pourra pas battre.
C'est quelque chose qu'on arrive à faire, ça, aujourd'hui, en France, monter en gamme, Olivier Lanty.
Assez du long terme sur l'innovation aussi.
Ouais. Alors, c'est un vrai sujet parce que la balance commerciale, pour moi, c'est un peu le juge de paix de notre outil productif, véritablement. Hein. Je ne suis pas le seul à le dire, Pierre-André de Chalandard, Louis Gallois, co-président de la Fabrique de l'Industrie, utilisent ce terme, c'est eux-mêmes qui l'ont popularisé. Deuxième élément, notre balance commerciale, il faut juste mesurer la vulnérabilité et la fragilité. Il n'y a plus que deux filières en France qui sont significativement exportatrices. Vous les avez citées, l'aéronautique, le luxe. Il y a encore quelques-unes qui sont positives de quelques milliards, mais elles sont en décroissance. La chimie, par exemple, à cause des prix de l'énergie, et beaucoup qui sont en négatif.
Donc, l'agriculture, qui longtemps a été...
L'agroalimentaire, qui tenait grâce mondial, à la boisson notamment, on voit lesquelles, aujourd'hui, est en difficulté. Donc, non seulement c'est un juge de paix, mais quand on rentre par filière, on se rend compte que notre commerce extérieur et que notre positionnement, qu'il s'améliore ou qu'il se dégrade un petit peu, repose exclusivement sur deux filières. C'est quand même pas un signe de grande résilience. Deuxième élément, il a été évoqué, vous parlez de la montée en gamme, etc. Comme si les entreprises n'avaient pas fait leur boulot, il faudrait monter en gamme. On l'a dit sur ce plateau, d'abord regardons les questions de fiscalité de coûts. Qui pénalise le tissu industriel, le tissu économique de la France, notamment par rapport à nos pairs européens. Impôts de production, on en discutait juste avant ce plateau, sur par rapport à l'Allemagne, hein, on est quand même dans le marché unique, on est dans l'Union. Donc, il y a cette pénalisation. Autre élément qui a été un peu esquissé, mais qui, à mon avis, est massif, c'est la concurrence déloyale chinoise notamment. Il y a le rapport, souvenons-en, qui a quelques mois seulement du Haut Commissariat au plan et à la stratégie, un écart de prix de 30 à 40% par rapport à la Chine, qui est très difficile à expliquer. L'OCDE qui annonce que la Chine aide 8 fois plus que les autres pays son outil productif. Comment voulez-vous que dans ce contexte-là, même si on avait des super chefs d'entreprise avec une super stratégie de positionnement de qualité-prix, du rapport qualité-prix, ils puissent véritablement gagner? Dernier point, il y a ce mythe de la montée en gamme. Super. Est-ce qu'avec uniquement des biens de très haute gamme, vous faites un commerce extérieur qui est équilibré? Vachement difficile. Si vous vous mettez que sur les produits de niche, vous n'arrivez pas, peut-être vous tirez la marge, mais vous n'arrivez pas à avoir les volumes. Donc, on aura nécessairement...
Enfin, si vous êtes dans l'IA, dans le numérique ou la robotique, je pense que vous avez quelques volumes qui vous tendent les bras, quand même.
C'est niche. Et à partir de là, se posera la question à un moment donné qui commence, et les choses bougent au niveau européen, sans doute trop doucement, on l'a vu encore par des décisions hier ou avant-hier, de la question de la protection du marché. Encore une fois, une balance commerciale, c'est des exports, mais aussi des imports. On peut essayer de pousser les exports, et c'est très bien. Il faudrait aussi qu'on reconquiert...
Donc, vous êtes favorable à la proposition de Thomas Grébin d'augmenter de 30% les droits de douane, de jouer sur la valeur de l'euro.
J'apprécie beaucoup son rapport parce qu'il met les pieds dans le plat.
Mettre une cloche sur l'Europe.
Je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe de faire une taxe Trump à 30%. Notre pacte social aurait eu un impact sur l'inflation qu'on n'est pas prêt à encaisser. Les États-Unis, quand même, je vous rappelle, avaient fait préférence nationale début du mandat de Biden. 75% des achats publics sont de valeur ajoutée américaine. On n'a pas l'équivalent pour doper la demande domestique.
Ensuite, on en discute, la préférence européenne, mais c'est pas fait, oui.
Un super booster à l'inflation. Et enfin, vous venez du protectionnisme. Si on met du protectionnisme aujourd'hui en Europe, manière Trump, c'est-à-dire 30%, vous mettez la charrue avant les bœufs, vous créez un choc inflationniste, vous ne tenez pas socialement. En revanche, on peut faire ce que j'appelle du protectionnisme en dentelle, c'est-à-dire choisir les produits essentiels sur lesquels on veut absolument conserver une maîtrise de l'outil productif.
D'abord, la préférence européenne, ensuite une politique de compétitivité
et d'aide à l'investissement.
D'aide à l'investissement.
Et enfin, de la protection, c'est l'ordre logique. C'est celui qui a été codifié par la Banque mondiale et le FMI dans les années 80 sur des grandes réussites industrielles, comme par exemple la Corée du Sud. Et les États-Unis, avec leur taille fantastique, qui font que ça fait un choc qu'on voit bien dans l'économie, suivent à peu près la même démarche.
Voilà la fusée à trois étages. Voilà une proposition. Olivier Redoulès.
Quelques petites réactions rapides. Je pense qu'il faut quand même, pour la balance commerciale, il faut quand même avoir la vue biens et services. Il faut même aussi avoir la vue investissement extérieur. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir quelques grandes entreprises qui réalisent toujours à peu près 20% de leur activité en France, qui sont très bien exportées à l'international et qui, au fond, nous aussi, nous aident à équilibrer nos comptes. Donc ça, c'est un point important. Et quand on veut avoir une vision un petit peu de l'équilibre des comptes, il faut tout mettre ensemble et pas juste, je pense, regarder la balance commerciale, si c'est important.
Et la balance des paiements est peut-être à peu près, grosso modo, équilibrée.
Équilibrée, parce qu'en fait, les services ont beaucoup augmenté au cours des dernières années en termes de soldes. Alors, pour partie sur le transport, mais aussi pour partie sur les services financiers post-Brexit. Donc, il faut avoir une vision un peu globale. On a une faiblesse qui est très forte, qui est celle de la faiblesse de la base industrielle. Et c'est ce qu'aussi dit notre enquête. C'est que les importateurs étrangers, quand ils cherchent à se fournir en France, ils n'ont pas forcément trop de choix, et ça manque. Et donc on a un problème en fait d'attrition de la base industrielle qui s'auto-entretient, parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous voyez que c'est un peu comme vous allez dans un supermarché, il n'y a rien dans les rayons, vous allez chez le voisin. C'est un peu la situation dans laquelle est la France. On a quand même une force qui reste, et je reboucle avec le CIR, on parlait d'aéronautique. Il faut voir en tête que quand on parle du CIR, en fait, ça finance notamment la R&D de Safran ou d'autres entreprises de ce type, qui justement, après, ont des...
C'est même une des critiques adressées au CIR, c'est que ça part trop chez les grandes entreprises.
Ils font des emplois ou autres. Donc, si on veut toucher le CIR, il faut avoir en tête aussi ces enjeux-là qui sont d'exportation de choses très qualifiées. Et puis, un point qu'Olivier a mentionné, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que un certain nombre d'industries traditionnelles qui étaient plutôt des forces, notamment les boissons alcoolisées, les spiritueux ou autres, aujourd'hui sont en situation un petit peu de faiblesse. Et on est sur des sujets sur lesquels on avait plutôt une force, une marque, et c'est du très haut de gamme. Et donc, il faut faire attention à ça aussi.
Olivier,
oui, la réaction sur la balance commerciale et la différentes façons de le voir est très juste. Si on le voit comme économiste et comme flux de financiers, il faut agréger effectivement les services et les transferts financiers et on arrive à quelque chose qui s'approche de l'équilibre. Ça, c'est une vision d'économiste. C'est très respectable, mais c'est pas la seule qu'une société, qu'une nation doit avoir. Regardons aussi notre balance commerciale en termes de souveraineté, de dépendance. Et à ce moment-là, il y a pas mal de transferts qu'il faut, je dirais, regarder différemment. Et si on se concentre sur la balance commerciale en biens, qui sont les choses matérielles que nous échangeons, l'équation est bien différente. Encore une fois, ça dépend du point de vue. La vision économique de notre société est légitime. Elle ne peut pas être la seule. La vision de cohésion sociale et territoriale, la vision de souveraineté sont aussi légitimes. Et dans ces cas-là, on regarde pas nécessairement les mêmes indicateurs.
Dorothée Osé.
Oui, alors moi, je partage qu'il y a différents objectifs. Par contre, je pense que, regardez, la balance, quand on regarde la balance commerciale, c'est important de regarder bien des services du point de vue de nos relations avec l'extérieur, et y compris de nos relations financières avec l'extérieur. milliards. L'industrie,
elle est excédentaire. Hein,
voilà, l'industrie en tant que telle est à regarder aussi pour des raisons de cohésion territoriale. Quand on parle souveraineté, pour moi, faut pas regarder la balance des biens parce qu'il y a plein de choses et il y a plein de pays partenaires. Et quand on se pose des questions de souveraineté et de dépendance, au fond, le but c'est pas l'autarcie. Le but,
j'ai jamais dit ça, hein, surtout
oui,
pas.
Mais justement.
Non, mais ça, c'est la critique facile quand on alors, dit, si vous dès qu'on a souveraineté.
On laisse finir de Dorothée Rouzé.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je vous ai écouté. C'est de dire, en fait, ce qui est important en termes de dépendance et de vulnérabilité, c'est de ne pas dépendre pour des biens qui sont essentiels ou stratégiques, parce que c'est des industries stratégiques, parce que c'est essentiel à la défense, à la santé, à l'alimentation, à des industries dont on ne peut pas se passer, de pays qui ne sont pas nos amis, suivez mon regard. Et donc, se dire, parce que j'ai une balance commerciale déficitaire, je suis dépendant, pour moi, c'est pas la bonne maille, parce que la bonne maille, elle est beaucoup plus fine en termes de biens et en termes de géographie. C'est choisissons nos alliés, choisissons de qui on accepte d'être dépendant et dans quel bien on accepte d'être dépendant.
Qu'on dit souvent, hein.
Et sur lesquels on n'accepte pas. C'est un vrai sujet qui est lié, mais qui n'est pas complètement, qui se recoupe pas complètement avec la balance commerciale dans laquelle il y a des biens pour lesquels, au fond, ça nous dérange pas d'être importateur et d'autres pour lesquels c'est très dérangeant.
La vraie souveraineté, c'est choisir ses dépendances et avec qui on échange.
Et je suis d'accord là-dessus. Un déficit commercial n'est pas forcément un reniement de souveraineté. Il faut qu'on voit derrière lesquels ils sont. Il faut choisir nos amis et puis il faut choisir aussi nos biens essentiels. On a plus de facilité à faire des cartographies de pays qui nous sont plus ou moins amicaux que d'avoir fait cette sélection des biens sur lesquels on veut véritablement.
Il y a beaucoup de travaux.
On y voit clair là. Il y a des travaux là-dessus.
Alors à titre personnel, j'en conduis au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Mais je trouve que notre réflexion collective, elle n'est pas au niveau des enjeux. On a des réflexions un peu sectorielles. On a fait les médicaments critiques. La liste des métaux critiques est quand même un peu un fourre-tout, il faut le dire. Et les objectifs de la Commission européenne sont en train de se révéler. Il y a un rapport de la Cour des comptes européenne là-dessus, pas tout à fait quand même réaliste, etc. Mais on n'a pas de réflexion globale sur notre tissu économique et quels sont et quelle serait la définition des biens essentiels. Alors, il se trouve que j'y travaille et que normalement, on va sortir, dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil d'État, une proposition. Encore une fois, ça demandera après à ce que le législateur s'en dessaisisse, mais d'un régime juridique, qu'est-ce que c'est qu'un bien essentiel et comment est-ce qu'on peut le travailler ? Notre réflexion, à mon avis collectif, n'est pas la maturité nécessaire par rapport aux enjeux de souveraineté, de retour des empires qu'on a aujourd'hui.
Vous y voyez clair à Bercy sur
nos
besoins ?
Alors, je pense que c'est difficile de dire, prenons l'univers des biens et définissons lesquels sont essentiels. Il y a beaucoup de travaux à la fois, alors nous on en a conduit, la Commission européenne aussi, parce qu'au fond la maille intéressante, elle est souvent plus européenne que française, et un certain nombre de travaux académiques qui, en un sens, prennent le sujet dans l'autre sens, qui est partons de notre commerce extérieur. Alors le commerce extérieur, les données qu'on a, c'est 5 à 6 000 produits, donc c'est quand même très détaillé. Quels sont les produits pour lesquels nos importations sont très concentrées dans un pays ? Pour lesquels ces importations sont très concentrées dans un pays, et en plus, on a très peu de production domestique. Et ensuite, sur lesquels, donc, on n'a pas les moyens de substituer parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres sources alternatives. Et en fait, ça permet, je dirais, de partir de cet univers de produits qui est très large et quelque part de faire l'entonnoir. Et à la fin, on arrive à quelques dizaines ou quelques centaines de produits sur lesquels nous sommes dépendants.
Qu'atypique des terres rares.
Une fois qu'on, voilà, mais qu'atypique des terres rares, mais parfois aussi des grippins ou des plantes vertes artificielles. Mais une fois qu'on a cette liste de quelques centaines de produits, on peut regarder ligne par ligne et au fond, on arrive assez vite à savoir dans cette liste quels sont ceux qui sont importants. Alors, il y a aussi des produits, voilà, des composants chimiques qui rentrent dans l'industrie automobile et dont on ne peut pas se passer. Il y a les terres rares, évidemment. En fait, il y a plein de choses. Mais ça permet, je dirais, de partir de nos dépendances et dans ces dépendances, ensuite, d'identifier lesquelles on veut réduire.
Allez, question dépendance, il y a un dernier thème sur lequel on est très 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 dépendant, c'est le numérique évidemment et l'intelligence artificielle. On vit dans une période importante en ce moment même, les entreprises et l'administration sont en train de tester de voir là où l'IA est véritablement utile ou pas, avec des arbitrages financiers. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise se rendent compte que l'IA coûte quand même extrêmement cher et n'est pas forcément utile de partout. Et c'est à ce moment-là que débarque la Chine, souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, mais tout aussi performant et en plus en open source, ce qui n'est pas le cas des modèles américains. Les modèles chinois séduisent entreprises et administrations de plus en plus, mais est-ce qu'on peut confier son IA et ses datas à Pékin, Olivier Rodoulès ?
Alors, je vais répondre, et je pense aussi que ça s'inscrit un peu dans la logique du débat qu'on a eu tout à l'heure sur la dépendance. En fait, ce qu'il faut... Je reprends une expression des termes que Dorothée a utilisé, ami ou allié. En réalité, en économie, on n'a pas vraiment d'amis ou d'alliés. On l'a vu même au niveau européen, on se fait tailler des croupières par nos amis allemands, par nos amis espagnols, par nos amis italiens. Donc, je pense qu'il faut pas.
Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts.
Il y a des gens avec qui on a des relations. Dans un droit codifié, qui ne font pas forcément du dumping. Il y en a avec qui, bon, c'est un peu le Far West, mais en fait, on est dans des gradients sur cette situation. Il y a personne qui est vraiment ami, personne qui est franchement ennemi, et de manière générale, on a plutôt intérêt à commercer avec tout le monde. Par ailleurs, nos dépendances, en fait, comment on lutte contre des dépendances, c'est... la première façon de lutter contre... C'est de mettre en concurrence nos fournisseurs. En fait, aujourd'hui, on a quelques entreprises qui commencent à émerger en Europe, mais qui ne font pas le poids face aux géants américains ou même à ceux qui émergent côté chinois. Et donc, si on veut vraiment être indépendant d'une certaine façon, et par ailleurs, ne pas trop payer en rente IA des acteurs américains, du coup, en fait, il faut au contraire essayer de mettre au maximum en concurrence les modèles chinois, les modèles américains, les modèles d'autres pays.
Et d'autant plus qu'ils sont en open source, encore une fois. Donc ça veut dire qu'on peut les intégrer sans forcément faire passer les données.
La concurrence a un rôle à jouer sur ça. Alors, on critique souvent la politique de concurrence, d'ailleurs, sur l'industrie, pour le passé, pour tout un tas de raisons. Après, on pourrait y en parler des heures. Mais parce qu'en fait, elle ne se soucie pas forcément
assez
du côté producteur. Mais du côté consommateur, elle a plutôt le job. En fait, au fond, au cours des 20-25 dernières années, la politique en concurrence est arrivée au niveau européen à nous faire bénéficier de prix très bas sur le numérique, parfois plus bas que les Américains eux-mêmes, qui fait qu'une partie d'ailleurs des gains de productivité qui ont été faits aux États-Unis ont été de cette façon retrocédés aux consommateurs américains qui ont payé tout pas très cher. Et donc, il faut continuer dans cette logique, il faut mettre tout ça en concurrence. Après, il y aura des problèmes de souveraineté avec la Chine, mais il y en a aussi avec
les États-Unis.
Vous n'allez pas donner vos données vitales à un acteur plutôt qu'un autre. Je ne vois pas pourquoi on ferait confiance à un côté plutôt que l'autre.
Cette mise en concurrence, elle est aussi faite au sein de l'administration. Dorothée Rouzé, j'ai appris avec surprise que du côté du Trésor, mais d'autres administrations, y compris à la DGA, me semble-t-il, ou au ministère de la Défense, ont utilisé des IA chinoises, on les testait.
Oui, alors c'est une question d'expérimentation sur laquelle je peux revenir, mais je pense que effectivement, quand on se pose la question de pourquoi les entreprises et même au sein de la sphère publique, on se pose la question de, je dirais, quelle nationalité d'IA. Il y a trois types de considérations. La première, qui est malheureusement l'état de fait aujourd'hui, c'est que même quand on veut n'utiliser que des outils français et européens, on n'a pas toute la panoplie d'outils disponibles.
Ni toute la palette.
Un certain nombre, y compris d'applications d'applications spécifiques aux entreprises qui intéressent, mais on entend aussi les entreprises qui disent, moi je cherche une offre européenne et je trouve pas chaussure à mon pied surtout.
Oui.
Donc là, on a encore évidemment beaucoup de travail. Ensuite, il y a les considérations de coûts qui émergent de plus en plus, qui est que après l'engouement initial, je dirais, les considérations de l'IA, ça coûte cher, les licences, les tokens, et ça devient des vrais centres de coûts qu'il faut gérer. Les IA chinoises sont moins chères. Alors, ça nous rappelle quand même une histoire qu'on a connue sur un certain nombre de biens, donc à aborder avec précaution, mais de fait, c'est une considération qu'on entend. Et puis la troisième, c'est au fond, quand on se pose la question de la souveraineté et que justement, on n'a pas forcément tout disponible en outils européens, qu'est-ce qu'on fait ? Et une des premières réponses, c'est de diversifier. Puisque maintenant, on voit que les États-Unis peuvent nous couper une IA du jour au lendemain, finalement, si j'ai une IA américaine et une IA chinoise, est-ce que je suis plus ou moins souverain ? Bon, en tout cas, j'ai diversifié mes risques.
On diversifie les risques. C'est vrai que l'affaire Anthropique a quand même secoué pas mal de
monde. Les IA open source, oui, il y a une propriété qui est que les IA open source, vous pouvez les intégrer, vous pouvez les couper d'Internet, donc les modifier, etc., les héberger sur vos serveurs, les couper d'Internet, donc il n'y a pas de données qui sont retransmises à la Chine. Et qui a-t-on plus confiance en Washington qu'en Pékin pour ne pas aller regarder dans les données vitales de nos entreprises ? Je ne sais pas. Donc ensuite, l'expérimentation au sein de l'administration, pour revenir sur cet épisode qui a fait polémique, c'est justement une expérimentation qui est menée par la délégation interministérielle du numérique, qui avait identifié un certain nombre de modèles à regarder, dont un modèle chinois qui est assez courant d'ailleurs, pour des tâches justement sur, alors dans le cas du Trésor, plusieurs modèles ont été testés, alors sur des serveurs qui sont hébergés chez nous et 100% souverains, avec une application, une interface du code qui sont chez nous et 100% souverains, et coupés d'Internet, c'est-à-dire pas de transmission de données. Bon, il s'avère qu'après quelques semaines d'expérimentation, les expérimentateurs ont dit, l'agent conversationnel, il a un biais pro-chinois, il a fait des réponses qui sont un peu bizarres, ok, donc l'expérimentation se termine, on ne l'utilise pas. C'est aussi le but d'expérimenter.
Mais et de manière, encore une fois, complètement sécurisée.
Des IA américaines, mais qui n'ont pas toujours les mêmes propriétés open source, et in fine, on va utiliser un outil qui est basé sur Mistral, et tant mieux. Mais je pense que c'est aussi utile, je dirais collectivement, entreprise, administration, etc., d'avoir ce travail un peu d'explorer le champ des possibles et de voir aussi quels sont les risques, d'objectiver les risques et de prendre des décisions conscientes.
Et éclairer. Olivier Lantier, un commentaire?
Oui, pas beaucoup d'autres commentaires. C'est normal qu'on teste, c'est normal qu'on regarde et qu'on fasse jouer la concurrence. On est dans une situation de dépendance et donc diversifier les sources est la première réponse la plus facile. Après, l'autre levier que vous avez pas évoqué, c'est celui de la commande publique qui doit permettre de faire renaître et de rattraper un minimum.
C'est un grand sujet au niveau européen,
sur ce dossier. Alors, on voit, c'est en train d'être fait et ça va dans la bonne direction. Il y a des administrations qui se sont débranchées de Palantir, par exemple, pour favoriser des modèles européens, ne sont peut-être pas aujourd'hui aussi performants, mais si on ne fait pas l'effort d'investir en eux, et la commande publique est une forme d'investissement, ils ne rejoindront pas les niveaux des autres. Donc, c'est bien un jeu à plusieurs dimensions qu'il faut jouer.
Bon, et pendant ce temps-là, Donald Trump vient d'affirmer que le cessez-le-feu avec l'Iran, un pays malade, dit le président américain, était terminé, et le pétrole vient de gagner plus de 5%. C'est la fin du cessez-le-feu en Iran. C'est
vive aussi, le monde de l'incertitude.
Voilà, c'est ça. Donc, il va peut-être falloir revoir à nouveau les prévisions de croissance. Décidément, dans ce monde plus qu'incertain, c'est aussi la fin de cette émission. Ça, c'est plus stable, c'est tous les jours à la même heure. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Dorothée Rouzet, merci Olivier Lanty, merci Olivier Redoulès pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur toutes les plateformes de diffusion et sur le site de BFM Business, bien sûr. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 pour une heure de débat en direct avec mes experts. Très bonne journée à toutes et à tous. À demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.